Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, à partir du verset 26. Luc 1, 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Yahvé est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. » Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et un deuxième passage qui se trouve dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, verset 1. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps. Voilà, ce matin, on va parler des anges, plus particulièrement d'un ange, Gabriel, et on va parler de Marie. Alors, je ne sais pas si vous aviez le choix ce matin, quel rôle est-ce que vous auriez voulu jouer dans l'histoire ? Celui de Gabriel ou celui de Marie? Alors, les dames, Marie, et les hommes, Gabriel. Ben, c'est tout simple. Le problème est résolu. Voilà. Mais vous allez voir que dans ce que je vais vous partager ce matin, vous allez pouvoir vivre les deux réalités. Ce n'est pas qu'on va refaire l'histoire, on ne peut pas jouer à la place de Marie, on ne peut pas jouer à l'ange Gabriel. Mais vous verrez que spirituellement parlant, on peut vivre les deux réalités. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à découvrir ce matin. Alors on va d'abord parler des anges. Moi, si je devais faire un choix par rapport à un ange gardien, ben, celui-là m'irait très bien. J'aime bien sa coupe de cheveux. Sa couleur, ben je ne sais pas, puis il envoie voilà, un gros cœur, moi ça me va bien. Alors je ne sais pas, choisissez votre ange gardien peut-être. Voilà, on va courtement, parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, c'est marrant, il y a beaucoup de choses à dire sur des êtres qu'on ne voit pas. Enfin je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà vu un ange? À part moi.
Sur un tableau, vivant.
Vivant peut-être, ouais, c'est possible, hein.
Sur un tableau.
Sur un tableau. Mais non, pas fait d'expérience spécifique. On lit des livres, on lit des gens qui ont vécu effectivement des expériences assez incroyables, dont Marie hein, notamment. Enfin voilà. Alors on va faire un petit tour, n'est-ce pas, un peu superficiel sur ce que sont les anges. Alors on va projeter des images qui vous permettent d'y voir un petit peu plus clair. D'abord, rappelez-vous cette parole de Jésus. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, hein, là tout le monde était d'accord qu'il change de loi en vain, hein, il n'y a pas de problème là. Hein, mais comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il y a tout un monde spirituel qui nous environne que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux humains. Ça, je pense qu'on l'a tous réalisé à un moment donné ou à un autre. Mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe réellement dans ce monde spirituel dans lequel un jour nous aurons aussi loisir d'être. Deuxième dia. Alors effectivement, d'après la Bible, les anges existent. Hein. On voit que 108 fois dans l'Ancien Testament ils sont nommés et 165 fois dans le Nouveau Testament. Si les anges n'étaient qu'une histoire, qu'une baliverne, je ne pense pas qu'on les rencontrerait aussi souvent dans l'Écriture. Donc l'Écriture proclame clairement que les anges existent. Prochaine. Alors évidemment que ce monde angélique a suscité dans l'imagination et les croyances populaires toutes sortes de choses, dans les arts aussi. Hein. On en trouve de toutes sortes. Il y a même Et Jean, mais je pense que ça touche plutôt le monde un peu ésotérique, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont affaire avec ce monde spirituel. Hein. Le satanisme notamment, le New Age, hein, où on vous invite à avoir votre ange guide qui va vous guider dans votre vie, etc. On a même fait une classification des anges. Alors on les a appelés des supernaphins, des séconaphins, des tertiaphins et les omniaphins. Moi, je n'en ai jamais vu et ce n'est pas dans l'écriture. Mais enfin, voilà. Et on voit qu'on a même fait des anges en Lego pour les enfants. Vous avez un ange en Lego? C'est possible, vous pouvez faire votre crèche en Lego. Voilà. Puis on les représente souvent sous des airs un peu joufflus. Voilà, bon, il y a aussi des anges un peu plus puissants, solides, des anges gardiens, etc., etc. Prochain dia. Alors, qu'en dit la Bible? Je crois que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que la Bible en dit? Alors, encore une fois, on va pas pouvoir... s'arrêter sur tous les domaines sur lesquels la Bible s'arrête en parlant des anges. Mais c'est une certitude, Dieu les a créés. Ils sont des créatures de Dieu. Hein. Et on voit ce passage notamment, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Imaginez un peu ce monde-là spirituel, hein. Ce n'est pas juste quelques gugus qui se courent après dans le ciel, comme ça, à tire-d'aile, et on le verra. C'est un monde qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre imagination. Et quand Dieu crée les anges, le mot ange signifie aussi messager, n'est-ce pas? Il dit, ben, louez-le, vous tous, ces anges. Imaginez ces cohortes d'anges sans fin qui louent. Vous toutes, ces armées, il a commandé et ils ont été créés. Prochaine. Alors la nature des anges. Hébreux 1.4 nous dit qu'ils ne sont pas, ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer son ministère pour ceux qui héritent du salut. Donc il y a un lien entre toi et les anges, c'est sûr. Si tu as été appelé et tu as reçu cet appel à hériter du salut, il y a quelque chose du monde angélique qui se manifestent dans ta vie. Ce sont des esprits. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un corps céleste, je ne sais pas comment c'est, mais en tout cas, ce sont des esprits avant tout. Attends, je n'ai encore pas dit de tourner. Hein. Et qu'est-ce qu'il a dit dans Marc 9, 25 ? À la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, certains vont dire Alléluia, ni les femmes de Marie, certaines vont dire Alléluia, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Qu'est-ce qu'on va s'embêter là-haut, hein? Eh non, on va pas s'embêter, ça je peux vous le promettre. Ça va être très intéressant de voir comment Dieu s'y prend pour qu'on puisse vivre quand même les relations humaines. En même temps, elles peuvent être terribles, hein? Ça peut être le chaos, hein, entre un couple, dans une famille. Mais qu'est-ce que ça peut être beau aussi? Quand c'est bien vécu la relation, qu'est-ce que c'est beau, non? Ben, on dit Amen, non? Ben, moi je trouve que oui, c'est beau. Voilà. Donc ça sera différent, hein? Leur nombre, ça aussi, ça dépasse notre imagination. Les écrivains bibliques, ils ont eu de la peine, je pense, à mettre tous les zéros les uns derrière les autres. Quand il est dit dans Apocalypse 5.11, leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ce n'est pas assez encore. Dans Daniel, il est dit, un fleuve de feu coulait, sortait de devant, 1 000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Wow, on peut s'amuser à en mettre des zéros. Hein. Voilà. Donc ça nous donne une petite idée sur la nature, sur le nombre des anges. Ça doit être... Alors imaginez un cœur d'ange. Hein. L'Église réveille, c'est déjà pas mal, mais alors les anges... Hein. Maintenant, leur rôle et leur mission. Alors là aussi, il y aurait tellement de choses à dire si on prend tous les passages de l'Écriture, hein, dans lesquels les anges sont impliqués. Mais comme on l'a dit, les anges sont d'abord ont été créés. Ce n'est pas pour louer Dieu. Ils louent Dieu parce qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et quand on est dans la présence de Dieu, on ne peut pas ne pas louer. C'est comme quand on est devant un paysage extraordinaire, vous êtes là. Non. Oh, regarde chérie, ce que c'est beau. On avait été en Floride il y a quelques années. Et puis, on cherchait à voir un coucher de soleil sur la mer. Alors, on était dans une ville, je ne me souviens plus où, avec notre camping-car, et puis on ne trouvait pas, c'est grand, c'est ville. Puis on se disait, mais dans quelle direction est-ce que se trouve la mer? Puis je dis à Yvette, écoute, peu importe, je vais tout droit. Je suis sûr qu'il y a un ange qui nous a guidés. On arrive tout droit, il y avait une impasse. Je dis, mince, encore une impasse. Je dis, écoute, ça ne fait rien, on s'arrête là. On s'arrête là, on fait 200 mètres, on arrive au bord de la plage. Il y avait, je ne sais pas, 500 personnes qui étaient là sur cette plage. Et tout le monde regardait ce soleil descendre. Il y avait encore des pélicans qui passaient là. Enfin, c'était peut-être des anges aussi. Puis ils étaient là. Et c'est la première fois que j'ai entendu, je dis 500, ça pouvait être 300 ou 800, 500 personnes qui applaudissaient le coucher de soleil. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de l'homme quand il voit la beauté, la magnificence. Donc, dans ce passage, les anges louent naturellement. Nous, on doit faire des efforts parce que notre nature humaine, elle était tellement rebelle que pour que ça devienne quelque chose de naturel, il faut s'entraîner tous les dimanches. Hein. Il faut venir à l'église de réveil, apprendre la louange. Mais à un moment donné, quand on découvre qui Dieu est, ça devient naturel. Et puis les anges sont au service de Dieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Donc imaginez le retour de Jésus avec tous ses anges. Il n'y en a pas un qui veut louper ce moment. Ils seront tous là, tous présents. Hein. Dans Matthieu 13, 49, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Bon, ça c'est un travail qui n'est pas très agréable, mais voilà, ils servent Dieu. Ils ont compris que, avoir été créé par Dieu, ça produit la louange et puis ensuite ça produit le service. Puis les anges ont un rôle protecteur aussi. Alors on a souvent parlé des anges gardiens. Hein. Voilà. Mon Dieu a envoyé un ange et fermé la gueule des lions, c'est Daniel qui parle, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Hein. Mais Dieu a envoyé son ange. Je ne sais pas si Daniel l'a vu, mais c'est une réalité qu'il a vécue. Et puis dans Actes, ça c'est l'histoire de Pierre qui est en prison. Alors un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi !» Ça, ça va être une histoire incroyable aussi. Hein, se retrouver en prison, puis vous avez un ange qui vient vous en sortir. Voilà. Prochaine. Alors, concernant la prière aux anges, parce que vous avez certainement entendu parler, dans la vague New Age notamment, comme je l'ai dit, et dans certains milieux chrétiens, on aurait cette tendance à vouloir entrer en contact avec nos anges gardiens, nos anges protecteurs, etc., etc. La parole de Dieu est claire à ce niveau-là. 1 Timothée 2,5 « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » On sait par où on doit passer, on sait à qui on doit parler, on sait en qui on peut se confier, n'est-ce pas? On n'a pas à chercher spécifiquement la présence des anges. Et cette parole d'Apocalypse qui est encore plus forte et qui clarifie le problème, c'est Jean. Et l'ange me dit, donc il est en lien avec un ange hein, à ce moment-là, écrit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau » et il me dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Et je tombais à ses pieds. Ça doit être tellement fort, tellement, tellement prenant les paroles de cet ange qu'il tombe à ses pieds et il veut l'adorer. Il tombe à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, donc l'ange, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Donc on voit que c'est pas compliqué. Hein? On n'a pas à chercher midi à 14h. On n'a pas essayé de contourner la pensée, la volonté de Dieu. Hein? Un seul médiateur. Garde-toi de le faire. Est-ce que nous pouvons voir les anges? Alors voilà, certains ont dit oui, Alors moi j'étais tenté à plusieurs reprises dans ma vie de toucher la personne, ou de lui offrir à boire, ou à manger en me disant, mais il est vraiment spécial cette personne. Dans ces circonstances-là, ça ne m'étonnerait pas que. Mais voilà, on hésite hein, dans ces moments-là, on n'ose pas trop. Est-ce que vous êtes un ange? On ne sait pas. Hein. Mais il est dit, n'oubliez pas, dans Hébreux 1, 13-2, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Un jour, quelqu'un qui est venu, j'ai dit, vous avez un pyjama? Il m'a dit, non, je n'en ai pas besoin. Je lui ai dit, ouh, c'est peut-être un ange. Mais quand on exerce l'hospitalité, il se passe des choses très étonnantes. Nous, on a vécu 3 ans et demi en communauté. Je pourrais raconter plein d'histoires qu'on a vécues, des gens apparemment bizarres qui sont arrivés. Et quand ils étaient là, il y a quelque chose qui se passait. Et on ne les a plus jamais revus. On ne sait pas. Voilà, etc. Puis alors, la dernière chose que j'aimerais dire par rapport aux anges, parce que je ne sais pas quelle idée vous vous faites du ciel, hein, mais en tout cas, dans Luc, au chapitre 15, verset 10, il y est dit, « De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Comme il y en a à peu près un toutes les secondes dans ce monde, c'est tout le temps la joie au ciel. Ils savent vivre dans la joie. Ils savent ce que c'est la joie. Si vous avez l'image d'un ciel où on sera là, je ne sais pas, en train d'attendre la fin de l'éternité, désolé, hein, on va rentrer là, ça ressemblera plus à l'église de réveil qu'à un enterrement. Hein. On va être joyeux. On va pouvoir le manifester. Je ne sais pas encore comment, mais je suis sûr que des choses magnifiques vont pouvoir se passer. Voilà, venons-en donc maintenant à Gabriel. Comme je l'ai dit, les anges sont appelés, en tout cas un certain nombre, sont appelés à servir d'une manière particulière. Ils ont, comme on dit, des missions particulières. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le livre de Billy Graham à l'époque, « Les anges, agents secrets de Dieu ». Et la particularité des agents secrets, c'est qu'ils sont présents, mais invisibles. Ils font un travail incroyable, les agents secrets. Hein? C'est plusieurs années après, quand il y a eu peut-être une arrestation, je me souviens, moi, quand j'étais encore enfant, il y avait toujours des arrestations d'agents secrets, soit en Russie, soit dans le bloc communiste, soit aux États-Unis. Alors, hop, on en arrêtait un, hop, on en arrêtait deux, hop, on en arrêtait trois, hop, on en arrêtait... Puis après, à la fin de l'année, on disait, bon, ben, on les échange. Hein? Alors, on les voyait s'échanger à Berlin, alors ils arrivaient du côté russe, du côté... voilà. Donc... Et on voit qu'il y a des anges qui ont vraiment un ministère très particulier. Et on va s'arrêter sur l'ange Gabriel. Donc le nom Gabriel, c'est homme de Dieu ou héros de Dieu. Moi, j'aimerais être un homme de Dieu et si possible, un héros de Dieu. Donc moi, il me va bien, Gabriel. C'est... Je ne veux pas être un héros de Dieu. Hein. Donc on voit que bien avant le temps de l'Annonciation, Gabriel a été amené à rencontrer Daniel. Et il lui a donné des explications sur des visions que Daniel ne comprenait pas. C'est quand même plus de 500 ans avant l'Annonciation. Donc le temps, c'est quelque chose qui est totalement différent dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, que sur la terre. Donc 500 ans avant, Gabriel rencontre Daniel. Hein. Et puis plus tard, il va rencontrer Zacharie à Jérusalem pour lui annoncer la venue, la naissance de Jean-Baptiste. Hein. Puis ensuite, alors, c'est... La mission, là, avec un grand L, la mission, c'est-à-dire qu'il va se révéler à Marie. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Dieu se manifeste? Et notamment, là, au travers d'un ange, parce que ce n'est pas la seule manière que Dieu a pour se manifester, mais au travers d'un ange. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, tant pour Gabriel que pour Marie? En général, quand Dieu envoie un messager, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. On ne peut pas imaginer envoyer un messager qui n'a rien à nous dire. Donc, Gabriel a quelque chose de très important à dire à Marie. C'est assez étonnant. Hein. Bon, dans l'Ancien Testament, notamment, les anges n'apparaissent pas sous des halos de lumière ou des aspects célestes, comme les peintres. Les ont peints en fait. Vous savez, les vieux tableaux, quand on voit des scènes de l'Ancien Testament, souvent c'est des anges lumineux qui arrivent et puis qui se manifestent là, 1000 watts au-dessus d'eux, comme ça, les gens sont éblouis, ils ne savent plus trop. Mais dans le fond, on voit plutôt que ce sont des manifestations, ils se révèlent à visage humain. C'est pour ça que les personnes qui rencontrent des anges ne sont pas forcément étonnées. Parce qu'ils ont des visages humains. Y a des théophanies dans l'Ancien Testament où Dieu se révèle sous la forme d'un corps humain. Donc, les gens ne sont pas étonnés de cette apparition. Par contre, et c'est intéressant de le voir dans ce texte, qu'est-ce qui va susciter une telle réaction chez Marie? C'est là? Non. Non. Et on croit connaître tous ces textes, hein? On les sait par cœur. C'est la parole qui va faire la différence. Écoutez ce qu'il est dit là, hein? L'autre entra chez lui, je te salue, toi qui as une grâce qui est faite. Troublé par, c'est pas marqué cet ange, troublé par cette parole. Troublé par cette parole. Dieu est parole, n'est-ce pas? Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est la parole, esprit, parole, qui entre dans un corps et qui a des choses à dire au monde. Donc dans le récit de l'Annonciation, on voit très clairement que c'est la parole qui va faire la différence. Quand Marie entend ces choses, elle est fortement troublée. Vous avez déjà été fortement troublée, hein? On peut être confronté à des gens qui sont très désagréables, ça vous arrive, hein, des fois, en ville ou je ne sais pas, en voiture, hein, ils montent le poing, ils vous disent des vilains, non, mais c'est vrai, ça vous trouble ou bien non, ça ne vous trouble pas. Moi, des fois, je suis là, j'ai une montée d'adrénaline, je me dis, waouh, heureusement que je suis chrétien, hein, parce que j'aurais fait la même chose, moi. Quoique des fois, ça m'arrive aussi de dire des choses. Voilà. Donc, quand Dieu utilise un messager, c'est pour nous parler. Alors, je vous ai dit, vous verrez que petit à petit, vous pouvez tout à fait vous identifier tant à Gabriel qu'à Marie. Pourquoi ? Rappelez-vous, si ça vous arrivait, mais si, certainement que ça vous arrivait parce que vous ne seriez pas là ce matin. Un jour, un messager ou une messagère se trouve tout d'un coup sur votre chemin. Bah, vous ne vous y attendiez pas. Vous allez boire un petit café avec. Puis vous commencez à parler. Et cette personne vous dit, tu crois en Jésus? Ce n'est pas la personne qui vous impressionne. C'est la question qu'elle vous pose. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Et moi, je peux vous dire que oui, j'étais boire un café ou un thé ou un coca, je ne me souviens plus exactement. Avec, je l'ai cité 10 dizaines de fois, hein, cette personne, mais elle a marqué ma vie. Et cette personne commence à me parler de Jésus. Je dis, ça y est, c'est parti, là, oh là là là, qu'est-ce qu'elle va me raconter? Oh mon Dieu, elle est peut-être dans une secte, oh là 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 là. Non, alors, elle, oui, mais alors, son truc, sa foi, non. Vous voyez? Et vous êtes fortement troublés. Moi, les 3-4 fois que j'ai rencontré cette personne, j'étais troublé. Alors, je faisais semblant que pas. Je faisais bonne figure, parce que je ne voulais pas qu'elle remarque que, oui, il y a un trouble en moi par rapport à ce qu'elle me disait. Et ce n'était pas de la voûte théologie, c'était un témoignage. C'était des expériences, c'était des choses, voilà, de tous les jours qu'elle vivait depuis qu'elle avait rencontré Jésus. Et pendant la semaine, bouh, eh ben, ça remuait, hein, ça remuait en moi. Et je me disais, non, mais attends, c'est pas possible, c'est le combat, c'est les luttes, c'est les doutes, c'est de dire, mais est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort, oh, mais c'est des trucs de chrétien, bon. Hein. Moi, j'étais troublé. Vous vous rappelez de ce moment-là, de cette étape de votre vie? Vous n'avez pas été troublé? Pas du tout. Dehors. Donc il lui parle. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Mais c'est quand même incroyable. Ce n'est pas un discours de politicien, ce n'est pas un discours du Parti communiste qui dure 4 heures de temps où tout le monde est en train de dormir là dans le. Non. C'est archi simple. Je te salue. Donc il est poli, hein, déjà. Aujourd'hui, on doit apprendre la politesse, hein. J'attends, voilà, quand on voit ce qui se passe. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Hein? Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'ange qui lui apparaît produit dans ce moment-là une situation de paix. Shalom, toi qui as reçu la paix. Shalom. C'est clair que pour le juif, d'entendre le mot shalom, c'est peut-être autre chose que bonjour pour nous. Le shalom, on sait ce que ça signifie. On aimerait tellement vivre dans le shalom de Dieu, dans la paix de Dieu. Mais tout ce qui nous entoure et même ce qui est en moi m'amène si souvent en dehors de ce lieu de paix. Et l'ange lui dit, shalom, toi qui as reçu la paix, Yahvé est avec toi. Quand le messager arrive, il arrive, il produit une atmosphère paisible. Jésus a dit à ses disciples, Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix,
non pas comme le monde donne. Autrement dit, Jésus leur dit, écoutez, moi je vais partir maintenant. Moi je vais vous quitter dans quelques temps. Mais je vais vous laisser, vous donner cette atmosphère paisible dans laquelle vous allez pouvoir être mes messagers, être mes témoins. Parce qu'imaginez, imaginez ces gens-là dans la chambre haute, complètement paniqués, ayant la crainte des Juifs autour d'eux, ne sachant pas que faire. Et tout d'un coup, on les voit sortir au milieu des foules à Jérusalem, tranquilles, paisibles. Jésus leur laisse quelque chose. Bien sûr, sa présence, mais la paix de Dieu. Et il y a ce magnifique passage de Philippiens 4:6 que j'ai appris par cœur et que j'ai appris à vivre parce que ça ne va pas de soi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, vos besoins. Conséquence est la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Ça, c'est deux réalités. Il y a mon intelligence qui est en lien avec tout ce qui se passe dans le monde, dans mon petit monde à moi. Et c'est souvent panique à bord, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment faire. Et on ne fait jamais bien les choses quand on n'est pas en paix. Quand on est stressé, on ne peut pas faire les choses correctement. Quand on est dans la crainte, la peur, l'appréhension, on ne peut pas faire les choses. On les fera, mais, que d'erreurs. Mais quand on goûte à la paix de Christ, quand on peut prendre des décisions dans la paix de Christ, souvent, on prend des bonnes décisions. Et pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui nous entourent. Donc le messager, en arrivant dans cette situation, en arrivant dans la présence de Marie, il dit des choses, et la première chose, c'est la paix. Shalom. Alors on vous a parlé un petit peu de ce qu'on avait vécu il y a ces derniers jours avec cette jeune Indienne qui nous débarque sous Kriti, et puis on ne la connaît pas, elle vient par un site internet, elle est là peut-être pour 2-3 jours, 2-3 nuits, et puis elle nous raconte son histoire, son ami en fin de vie, un cancer généralisé, tout ça, il est à Chaux-de-Fonds, il descend à Neuchâtel, il va peut-être se faire opérer, peut-être pas, c'est panique à bord. Je peux vous dire qu'elle était pampée. Et au bout de deux jours, elle nous dit, mais c'est incroyable la paix qu'il y a dans votre appartement. Ah bon? Moi, je passais l'aspirateur, je faisais la vaisselle. Non. Elle nous dit, mais c'est incroyable la paix qu'il y a dans votre appartement. Je dis à Yvette, oups, tu la sens, toi? Non. Voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est ouverte. Parce que dans une atmosphère paisible, on s'ouvre plus facilement que dans une atmosphère de tension. Et elle s'est ouverte. Elle a lu pour la première fois l'évangile de Jean, elle est venue pour la première fois de sa vie dans une réunion de prière. Elle m'a dit, mais nous dans les temples en Inde, on prie pour nous, pour que les dieux nous soient favorables. Ici, les gens priaient tous pour des autres personnes, pour des autres situations. J'ai jamais entendu ça qu'elle nous dit. Elle vient au culte le dimanche matin, elle dit, oh, c'est incroyable, des jeunes, des vieux, enfin des personnes âgées. Mais non, mais jeunes et vieux se réjouiront ensemble, c'est pas péjoratif. Vous comprenez? Elle, tout d'un coup, elle goûte ce qui est pour nous quelque chose, oh ouais, de naturel, oh ouais, on va à l'église, c'est normal, ah ouais, la paix de Dieu. Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est vraiment, on goûte à quelque chose que le monde ne connaît pas. Aujourd'hui, plein de gens vont manger plein de trucs, mais vous amenez la chose que personne n'a pu goûter jusqu'à ce jour-là. C'est impressionnant. Oh, cette saveur, ces goûts. Donc, goûtez à la paix de Dieu. Et l'ange, c'est la première chose qu'il fait. La paix. On va vivre ce moment, Marie, dans la paix. Ouais, elle n'est pas stressée, là. Elle est juste... Deuxième chose, l'ange lui dit, le messager lui dit, une grâce t'a été faite. Là aussi, c'est des termes qu'on utilise, mais est-ce qu'on est conscient que nous aussi, comme Marie, avons fait l'objet de la grâce de Dieu? Une grâce t'a été faite. Puis moi, je vois des chrétiens qui sont là, ouais, mais la vie chrétienne, c'est dur, gna gna gna, ils pleurent. C'est une grâce d'être chrétien. C'est une grâce de connaître Dieu. C'est une grâce de savoir que Jésus est venu comme, pas seulement comme sauveur, mais comme Seigneur. C'est une grâce. Moi, je vais vous dire une chose. n'y a que les condamnés à mort qui savent ce que c'est que d'être graciés. Ouais. Si vous étiez condamné à mort, en train de moisir dans une cellule, je ne sais où, et que quelqu'un vient, ouvre la porte et vous dit, selon le décret du président de la République française, vous êtes gracié. Je peux vous promettre que là, vous savez ce que ça signifie. Parce que vous passez d'un monde à un autre. Et vous savez, c'est une réalité. Il y a l'article 17 de la Constitution française qui permet au président de la République de gracier un condamné. Et ça ne se passe pas très souvent, mais ça se passe, ça existe, c'est là, dans la Constitution. C'est une réalité. Donc, moi je pense que si un jour vous prenez conscience que nous étions tous condamnés à mort, pas physiquement, mais spirituellement, vous étiez morts spirituellement, nous dit l'Écriture. Quand je réalise que je suis maintenant appelé à la vie, je passe de la prison à Haïti ou bien à Madagascar, ou je ne sais pas, moi, dans des endroits idylliques. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut dire ou arriver devant Dieu en disant « Ma vie, elle a été quand même pas mal, donc je peux entrer dans l'éternité, dans ta présence à cause de ça. » Non, personne. Donc nous sommes tous des graciés en puissance. Et moi, j'aimerais avoir ces moments de révélation de nous, te dire « Waouh, j'ai été gracié. Waouh, je peux goûter à la paix. » Alors, on continue. Et on arrive bientôt au bout. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Réfléchir, regarde sur ta vie, toi-même. Oh, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ça va? Quel cadeau, hein? Quel cadeau merveilleux, hein? Donc, quand on vit et on expérimente la grâce de Dieu, notre existence est chamboulée. On ne peut plus être comme avant, ce n'est pas possible. Parce que sa grâce nous entraîne dans le dessein qu'il a pour nous et dans sa paix. Troisième chose qu'on découvre dans ce texte, donc on entend des choses, ça produit en nous la paix, ça nous entraîne dans la grâce de Dieu, et il y a quelque chose de très particulier qui va se passer pour Marie, mais vous le verrez pour les autres aussi. Quand ces choses nous arrivent, quand Dieu nous envoie un messager, quand on a passé par ces deux premières étapes, on entre dans l'étape suivante. Et là, on le lit dans Luc 1, au chapitre 46. Et Marie dit, parce que là, elle va partir chez Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste, hein, et puis elle va la rencontrer. D'ailleurs, l'ange lui a dit, tu vas maintenant rencontrer Élisabeth, tu vas vers elle, quelque chose de spécial va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer? On lit peut-être depuis le verset 39. « Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Il entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. » Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Waouh! Et qu'est-ce que va vivre Marie? Au verset 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » C'est l'être tout entier qui est touché par Dieu. Son corps devient le tabernacle de Jésus, le lieu, la crèche dans laquelle Jésus va naître. Son âme, il est dit, mon âme exalte. Est-ce que vous avez déjà exalté le Seigneur? Et mon esprit se réjouit en Dieu. C'est allegria. Pour les Italiens, ils savent ce que ça veut dire, allegria. Quand ils sont allegria, on les entend, hein. Les Suisses, quand c'est Allegria, c'est bravo, alléluia. Et là, vous allez dans une église espagnole, italienne, ça saute, ça crie. Ça, c'est l'allégresse. Hein? Donc, c'est l'être tout entier qui est visité. Celui de Marie, mais aussi celui d'Élisabeth. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Alors vous me dites, oui, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est vrai, mais quand ça se passe, il faut aussi le voir. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé de leur discuter, leur parler. Il y a quelque chose qui a commencé de se produire dans le lieu où on était. On avait accueilli un jeune couple qui avait rencontré des chrétiens à... On peut demander à la petite fille de faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Madame, c'est gentil, merci. La petite bouteille, là. Voilà. Ah ben ça me perturbe. On les reçoit à la maison, ils étaient dans un petit village en France, et ils faisaient un camp New Age. Hein, alors on leur a appelé tous ces trucs New Age, et ils passent dans une ruelle, ils entendent des gens chanter, des chrétiens. Ils s'arrêtent, ils entrent, ils écoutent, ils ressortent de là, ils étaient touchés, incroyables. Et puis, ils rencontrent une personne, alors après, ils en discutent. Ils disent, oh, mais il y a aussi des chrétiens en Suisse, à Fribourg, ouais, on verra. Je ne sais pas comment ils sont arrivés chez nous. Et ils étaient là, dans le canapé, et nous, on était là, en face d'eux. Puis on leur parle de Jésus et tout. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit descend sur eux, ils commencent de parler en langue. Ils n'avaient rien appris, ils avaient... Je peux vous donner leur adresse et leur nom, hein, si vous ne croyez pas. Nous, on était tellement surpris, on s'est dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est tout, le Saint-Esprit était présent. Quand on est messager de Dieu, quand on est rempli du Seigneur, quand on vit dans sa paix, quand on vit ces choses. Encore une fois, vous me direz, oui, mais ce n'est pas toujours comme ça. Oui, mais quand c'est comme ça, vivez-le. Vivons-le à 100%. Bien sûr que ce n'est pas tous les jours comme ça. Mais quand c'est là, faisons pas la fine bouche, vivons-le pleinement. Et on voit ce couple qui était dans une joie pas possible, qui priait. On était là, oulala, on n'avait rien à faire. Le Saint-Esprit est assez grand pour faire ce qu'il a à faire, n'est-ce pas? Donc l'âme, l'esprit, le corps, l'être tout entier est utilisé par Dieu. Et Dieu en fait un lieu d'action, d'expérimentation de qui il est, de sa puissance, de sa gloire, de son amour, etc. Quand on voit ce que les gens sont prêts à dépenser aujourd'hui pour leur bien-être, au niveau corporel, au niveau esprit, au niveau intelligence, mais on dépense des milliards pour être un tout petit peu plus intelligent à la fin de la semaine, pour avoir un tout petit peu plus de muscles. Hein. On paye 1500 francs dans un... On va faire des exercices. Non, mais voilà, pour être bien, ben moi je vous dis, il vaut mieux être visité par le Saint-Esprit. Parce que lui, il sait comment nous toucher. Alors il nous donnera aussi la sagesse de faire un peu de sport. Hein. Ça ne veut pas dire que... Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est l'expérimentation de cette parole, de cette paix, de cette grâce, et ça devient quelque chose d'expérimenté. Moi, je ne sais pas comment on peut s'ennuyer en tant que chrétien. Honnêtement, hein, on le fait exprès, hein, si on s'ennuie. Parce qu'on peut vivre des choses tellement fortes, tellement profondes, tellement bouleversantes. Pas tout le temps, encore une fois. On ne vient pas tous les dimanches pour vivre des trucs bouleversants. Mais quand ça arrive, mais exaltez le Seigneur. Exaltons le Seigneur. Hein. Soyons dans l'allégresse et vivons ce moment d'allégresse. Ce n'est pas comme des bons Suisses en... Ou attention, l'allégresse dans l'Église, attention, hein, parce que tout d'un coup, ça peut... Voilà. Alors, je termine. Qu'est-ce que va être ou devenir maintenant Marie avec tout ce qu'elle a expérimenté? On va pouvoir mettre le dernier, je crois, c'est le... Voilà, vous vous rappelez de ça? Il y a 2 ans en arrière, qu'est-ce qu'on a fait? On est devenus des paquets cadeaux. Alors, c'est pas très agréable hein, quand on va en ville. Je n'aimerais pas vivre tous les jours comme ça, mais c'était tellement beau à voir. Se dire, mais on est là sur cette terre, on est des messagers, on peut partager notre paix, on peut parler de la grâce de Dieu, on peut dire qu'on a expérimenté des choses qui font du bien à notre être tout entier, on devient des paquets cadeaux. Et Marie devient un paquet cadeau. Pas seulement pour Élisabeth, mais pour le monde entier. Parce qu'Élisabeth lui dit, mais heureuse es-tu, Marie, si tu savais ce que tu portes en toi. Hein? Eh bien, nous aussi, nous pouvons porter des choses de la part de Dieu. Déjà Jésus, on le porte, il est là en nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein? Donc, ce n'est pas rien non plus. Et puis, tous les jours de notre vie, on peut aussi manifester les dons que Dieu nous a donnés. On a des dons naturels magnifiques. Il y a plein de gens qui ont un esprit très créatif parmi nous et dans tout un tas de domaines. On va parler d'ailleurs du service un peu au début de l'année prochaine parce qu'on a besoin d'être renouvelé aussi dans une église. Hein. On ne se rend pas compte, il y a des gens qui nous servent tout au long de l'année et nous, on se sert d'eux. Puis après, ils partent et puis on dit « Oh, comment ça se fait qu'ils ne nous servent plus ? Comment ça se fait qu'ils ne balayent plus l'église ? Comment ça se fait qu'ils ne font plus la Sainte Cène ? Comment ça se fait qu'ils ne nous donnent plus le café à la fin du culte ?» Et si moi je le faisais maintenant? Et si moi je devenais aussi un paquet cadeau pour les autres? Dans les petites choses, on n'a pas besoin d'imaginer des grandes choses. Mais Dieu peut bénir de tellement de manières. Alors je termine. Dans ces 2 histoires, j'espère que vous êtes découverts. Encore une fois, Dieu ne refait pas l'histoire, mais il veut la continuer, cette histoire. Il y a des messagers aujourd'hui, célestes et terrestres. Tu peux en être un. Il y a des maris, des hommes et des femmes. Il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on peut tous porter Jésus en nous. On peut tous porter les cadeaux qu'il veut mettre en nous quand il le veut, comme il le veut. Et à partir de là, je crois qu'on peut vraiment vivre une vie chrétienne qui vaille la peine d'être vécue. Ça vaut vraiment la peine. Alors je vous souhaite cela dans ce temps de Noël. Vous allez partir dans votre famille peut-être. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. Il y a des choses étonnantes qui peuvent se passer. Nous, on s'y attend en tout cas, chaque année. Alors voilà, c'est possible parce que Dieu est là. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'à chaque fois qu'on relit ces passages, ces récits, ces histoires, elles prennent vie en nous parce que ton Saint-Esprit nous révèle la profondeur de ces récits. Et puis, il nous entraîne dans l'actualisation de ces récits. Ce ne sont pas des vieux récits d'il y a 2000 ans en arrière. Ce sont des récits qui peuvent être actuels, dans lesquels je peux être impliqué, dans lesquels tu m'entraînes et tu veux faire de nous des collaborateurs dans ton œuvre. Tu nous dis, offrez vos corps en sacrifice. Seigneur, ce n'est pas rien, mais quand on t'offre tout, on a tout. Tu nous donnes tout. Seigneur, je te demande vraiment que, alors que nous allons être dispersés dans quelques minutes, alors que nous allons retrouver les membres de nos familles peut-être, ou des amis, ou Seigneur, je te demande que tu puisses nous surprendre, un peu comme Marie a été surprise. Peut-être que des discussions auront lieu, peut-être que ça va pouvoir se passer dans la paix, que la grâce de Dieu sera là pour entraîner les auditeurs dans une expérience de ta présence. Seigneur, tout cela t'appartient. On ne va pas créer les choses artificiellement. On ne va pas les faire de nos propres forces, mais on te demande simplement d'être là, Seigneur, là où nous sommes. Merci de bénir ces moments, Seigneur. Merci de bénir ces temps passés en famille ou entre amis. Seigneur, que ta gloire se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais encore juste un petit instant par rapport à ce qui a été dit. Il n'y aura pas de Sainte-Seine ce matin. Mais je pense que suite à ce qui a été partagé, il y a aussi peut-être une manière de répondre à cela. Dans cette parole qu'on a lue tout au début, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être entier, que vos corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition. Il y a une réponse à donner. Et vu qu'on est en train de méditer cela, peut-être que je pourrais vous demander de vous lever et dans le silence ou à haute voix, peu importe, de passer ce moment avec le Seigneur et de dire, ben Seigneur, voilà, aujourd'hui, je m'offre à toi. Je ne sais pas ce que tu veux faire, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais moi j'aimerais juste être le messager dont tu as besoin aujourd'hui. J'aimerais juste être le paquet cadeau que tu aimerais être aujourd'hui. Ça sera peut-être un tout petit paquet, mais c'est un petit paquet cadeau. Alors, levons-nous et terminons dans un moment de face à face avec le Seigneur et osons lui dire, peut-être nos craintes, nos appréhensions, mais osons lui dire, voilà, ce matin, voilà, après ce que j'ai entendu, je m'offre à toi, Seigneur. Faisons un petit moment de silence.